L'expérience commence. C'est un homme comme un mystère, une énigme. C'est alors l'envie de recomposer le son d'une vie, son rythme, les éléments auxquels elle s'est frottée. Octave Broutard est parti sur l'île d'Ouessant, sur les traces d'un homme qui s'y est donné la mort en mettant le feu à plusieurs lieux de l'île. C'était un premier chapitre, Ouessant, le vent et son sang, que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture. Ce soir, il poursuit son enquête en s'attachant à la personnalité de celui qui était tailleur de pierre et qui aimait voler dans les airs. Il recompose les sensations d'un homme qui a préféré disparaître et dont la solitude était devenue colère. Fragment d'un homme de pierre, c'est un atelier de création radiophonique d'Octave Broutard réalisé par Céline Terce.
Une fois, il m'a dit « Maman, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir. » Je lui ai dit « mais si, bien sûr que si, tu vas t'en sortir. » Et moi, je me disais « Tant qu'il a ses animaux, il n'y a pas trop de soucis à se faire, tant qu'il a ses animaux. »
Quelqu'un de très grand, avec des grosses mains. Il n'avait pas l'air d'avoir peur de grand-chose. On l'entendait pas trop, mais c'est vrai qu'on le savait quand il était là, Pascal, parce qu'il faisait deux têtes de plus que tout le monde. On avait vu ses chiens avant. Voilà, on savait qu'il était là, mais il faisait pas de bruit, pas de vagues. Il était très discret.
J'imaginais très bien casser un mur parce qu'il n'était pas content de la personne pour qui il avait travaillé, ça oui. Mais je crois qu'il y avait, tellement de choses qu'il avait dû accumuler et remâcher.
Quelle haine il avait, quelle haine il avait. Oh, quelle haine. Oh, vraiment. C'est incroyable. Et cette façon de mourir. Oh, vraiment. S'arrête là. Couchez là. Allez, va coucher. C'était aujourd'hui, il y a 3 ans, J'avais mon téléphone sur moi parce que je savais qu'il allait m'appeler pour mon anniversaire. Et ce sont les gendarmes qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, êtes-vous seule ? Je lui ai dit, non, je ne suis pas seule, mon mari n'est pas loin. Enfin, et bon. Ils m'ont dit que mon fils s'était suicidé, qu'il s'était ouvert les veines. Et voilà. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais ils m'ont parlé de rien du tout. C'est après ma sœur qui a lu sur les journaux et qui m'a envoyé les articles que j'ai lu ce qui s'était passé.
Merci, monsieur Dard.
Le Parisien. Pris d'un coup de folie, un homme de 51 ans sème la terreur sur l'île d'Ouessant. Un ancien tailleur de pierre à la réputation étrange était installé sur cette île du Finistère depuis 17 ans. Il a semé la terreur toute une nuit avant de se donner la mort. Ce géant de presque 2 mètres vivait isolé avec ses chiens.
Ça a été très très progressif pour nous dire ce qui s'était passé réellement. On a été à Brest, on a été convoqué par eux la veille de l'enterrement et ils nous ont reçus longuement. C'est eux qui l'ont trouvé, enfin qui ont été sur l'île. Et voilà, ils nous ont expliqué petit à petit, parce que je voulais le voir une dernière fois. Et ils me l'ont déconseillé, alors je leur dis, c'est parce qu'il est défiguré, il a dû se jeter dans les rochers. Non, c'est pas ça, il s'est ouvert les veines, mais faut mieux pas que vous le voyiez.
On sentait que c'était quelqu'un quand même d'assez solitaire. Ici, à l'école de parachutisme, entre les sauts, je me souviens très bien, moi je passais devant sa tente régulièrement, et il allait se coucher ou s'allonger un tout petit peu, et il rêvait probablement au saut suivant qu'il allait faire, avec ses deux chiens à côté de lui, dans sa toute petite tente. Hein. Et... Oui, il fallait sûrement qu'il se replie un tout petit peu parce que il était grand, très très grand. parlait quand même peu. Il parlait pas beaucoup de sa vie là-bas. Je savais qu'il avait une petite entreprise de maçonnerie. Pour moi, il était tailleur de pierre à Ouessant. C'est quand même une île où il y a de belles maisons, où il y a des beaux murets. Il y a sûrement du boulot pour un tailleur de pierre. Donc il arrivait, il mettait sa petite voiture là, juste derrière, là, à l'entrée du camping pratiquement. Et avec ses deux chiens qui le suivaient tout le temps. Et ces chiens étaient assez... ils restaient rassemblés, si mes souvenirs sont bons, autour de sa tente et de sa voiture.
C'était... Enfin voilà, quand il était là, on savait que fallait ranger ses poubelles, parce que ses chiens allaient tout bouffer, il fallait pas laisser un truc traîner devant sa caravane, parce que sinon les chiens allaient manger. Il peignait ses chiens, il mettait du poil sur 15 mètres carrés juste devant l'entrée. Enfin voilà, c'était. Il y a eu plusieurs fois, on s'est dit ouais, il est un peu, il est un peu tout seul. Il prend pas en compte la vie en communauté, la vie avec tout le monde sur un paraclub, parce que c'est vraiment, c'est ça un paraclub, c'est la vie en communauté. Et du coup, on peut être différent, il y a aucun problème, mais faut juste respecter les autres et puis tout se passe bien. Je savais qu'il venait de Ouessant, donc je me dis c'est quand même un mec de Ouessant qui vient du bout de la France et du coup sur son île là-bas, je sais pas, ça doit pas être facile tous les jours, j'imagine, l'hiver, tout ça, enfin bref, plein de choses. Et c'est vrai qu'il avait des relations avec les gens un peu froides, un peu compliquées, un peu alors pourquoi, pour qui, moi je sais pas trop non plus de chercher à savoir pourquoi, mais on le prenait comme il était aussi, quoi.
Il faisait la wingsuit qui est une combinaison qui donne une surface additionnelle permettant de voler beaucoup plus longtemps en chute libre en partant de 4000 mètres puisque pratiquement tous les sauts se font à partir de 4000 mètres ici. Et alors comme il était très très grand, il avait une combinaison absolument énorme et son grand jeu effectivement c'était de contourner les nuages.
On saute, on s'incarne dans le ciel. On vient se poser sur l'air et c'est de la glisse. C'est du pur bonheur. C'est ça qu'il aimait, les éléments. Que ce soit la terre, la mer, l'air, la pierre, les fleurs, il était très, très sensible à ça. C'est la matière. Il est amoureux de la nature, mais de la matière aussi. Effectivement, je pense que c'était vraiment une parenthèse. Le saut.
Et vous savez ce qui a décidé son départ à Ouessant ?
Le chien. Pour qu'il soit libre, pour qu'il ait l'espace, pour, voilà. Ah, ça, moi, je suis sûre que c'est à cause de Balou qu'il est parti sur l'île. Jamais, je suppose, s'il n'y avait pas eu ce chien, il serait parti là-bas. Il serait parti quelque part, comme tailleur de pierre, mais certainement pas à Ouessant. Il a travaillé en Angola, sur les plateformes pétrolières. Et puis, il est resté 2 ans avec nous au chômage. Et voilà, donc il vivait avec nous. Il nous gardait nos moutons. Et puis, il faisait beaucoup de vélo. Et toujours tout seul. Il ne s'est pas intégré du tout au village. Il n'a pas essayé de s'intégrer au village. Et puis, il est parti faire son voyage à vélo jusqu'en Bretagne. Il a traversé la France à vélo. Et c'est là qu'il a dû rencontrer sur son parcours un tailleur de pierre. Il a tenu une carrière de pierre. Après, on le retrouve à Corbes-sur-Ciel. Il a travaillé pour une entreprise. Il est parti à Ouessant.
Peut-être est-ce dû à son métier de tailleur de pierre, je ne sais pas. Le dernier été où nous nous sommes vus, effectivement, il me parlait là de ses problèmes de dos, de genoux, hein, le corps qu'il a lâché. Et il me disait, il est fort probable que je ne puisse plus voler. Il faut gagner sa vie, il faut vivre. Il aimait beaucoup son métier. Je sais que les dernières années, c'était très, très difficile. Et je ne sais pas s'il arrivait à obtenir un travail régulier. Et c'est vrai que Pascal, amoureux de la nature, amoureux du parachutisme et vraiment en difficulté financière, je pense, hein, vers la fin de sa vie. Il m'en avait quand même touché deux mots que c'était difficile. Et ses problèmes physiques. Donc, peut-être condamné à juste rester au sol.
On voyait que ça lui plaisait vraiment beaucoup, beaucoup. Mais ça l'a esquinté aussi, quoi. Ça l'a esquinté. D'ailleurs, de Pierre, il me disait, je ne peux pas rester assis plus de 10 minutes sans souffrir. Oui, oui, oui. Et il m'a dit, tu sais, j'ai compris ce que ça veut dire d'être pauvre. Quand ma bouteille de butane tombe en panne, eh bien, enfin, vous voyez, c'était... Il fallait, comment dire, il n'avait plus d'argent du tout. Il n'avait plus d'argent du tout. Alors je l'ai aidé financièrement. Je l'ai, pendant des mois, je l'ai aidé financièrement. Mais c'était un minimum, quoi. Enfin, je veux dire, c'était juste pour le quotidien, mais voilà. Donc... Et puis voilà, est arrivé ce qui est arrivé.
Un homme d'une cinquantaine d'années a braqué hier l'agence bancaire du CMB de l'île de Ouessant. Il a fait irruption dans l'agence à visage découvert. Il a agressé la guichetière pour obtenir de l'argent. Il n'avait pas d'arme. Rapidement identifié, il a été...
Quelqu'un a sonné. Donc j'ai laissé entrer parce qu'on était à quelques secondes officiellement de la fermeture publique. Et du coup, j'ai vu que c'était lui. C'était assez glaçant. Ce fameux mercredi 15 février 2017. J'avais déjà eu affaire à lui. C'était pas un des clients les plus sympathiques de la caisse. Et du coup, la confrontation, enfin, est vite arrivé avec ce client-là. Parce que ne voulant pas se plier au système, étant contre toute forme de réglementation, etc. Donc les rapports étaient déjà tendus.
Parce qu'il y avait quelque chose de vraiment de précis qu'il avait refusé de faire dès la première rencontre ?
Oui, bah comme dans toute banque, on est obligé de vérifier les identités des clients, etc. Donc, il m'avait dit déjà, moi, de toute façon, vivant, je le ferai jamais. Donc, vous aurez jamais de pièce d'identité valide. Il a croisé la personne sortante et il est arrivé virulent au niveau du guichet en balançant des papiers, en disant que c'était scandaleux, que je le foutais dans la merde, etc. parce qu'on avait, faute d'avoir les documents nécessaires, obligatoires, la clôture du compte avait été programmée. Et voilà, il a dit, de toute façon, je resterai jusqu'à ce que vous réouvriez mon compte. Je vous signe un papier comme quoi je vais vous agresser et puis du coup, que je vous oblige à me donner de l'argent. Je dis, non. Et après, moi, j'ai pas fait attention, mais en l'espace de peut-être un centième de seconde, enfin, je sais pas comment il a pu faire, mais il s'est retrouvé à côté de moi. Il m'a écarté violemment avec le siège. Après, il disait encore, heureusement que j'ai pas de couteau, sinon je t'aurais poignardé. Je me suis pris des coups, il me tenait par la queue de cheval, donc il m'arrachait les cheveux. Donc après, j'étais à moitié scalpée sur le dessus. Donc j'avais plein de cheveux partout.
Voilà, c'est ici que vous avez le détail de ce qui s'est passé, en fait.
C'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Pourquoi ne voulait-il pas donner ça, une copie de la pièce d'identité? C'est bizarre, oui. C'est à cause de ça que... Moi, je croyais que ses comptes étaient bloqués parce que je lui envoyais de l'argent en liquide, parce qu'à la banque, tout était bloqué. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, c'est bizarre quand même. S'il n'y avait que cette histoire de pièce d'identité qui bloquait tout, je ne sais pas pourquoi.
Et vous avez la suite, le détail ici.
Ouais. Eh bien. C'était pas rien quand même. C'était pas rien. Ouais, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Il a été violent quand même.
Mais vous ignoriez ce, tout
oui,
cet état.
Oui, 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 oui.
Et vous y trouvez, voyez une explication à comment il a pu avoir ce surgissement de violence, ce qui a pu.
Surtout que si c'était qu'une question de carte à faire, je comprends pas. Je comprends pas. De toute façon, il ne devait pas avoir grand-chose sur son compte, j'imagine.
Donc après, bah, entre-temps, il a réussi à prendre l'argent, à prendre un petit peu d'argent, et lui, il est parti par la porte de derrière. Quand les gendarmes sont arrivés en hélicoptère, peut-être une demi-heure après les faits, ils l'ont rattrapé assez facilement parce qu'il était chez lui. Et ils ont retrouvé une partie du butin qu'il avait pris. Il a été mis en dépôt au service judiciaire de Brest.
Et son butin, c'était à peu près quelle somme? C'était quelque chose d'exorbitant?
Ah non, 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 c'était ridicule en plus. Donc tout ça pour ça, quoi. Donc non, non, c'était quelques centaines d'euros. Donc,
parce qu'il allait être, il était emmené à Brest par les gendarmes et il s'inquiétait pour ses chiens. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris.
Il y a une constatation qui a été faite le lendemain matin par le médecin légiste. Des hématomes, des contractures, manque de cheveux sur le haut du crâne. Mais comme physiquement j'arrivais à faire les tâches de la vie quotidienne, qu'il n'y avait pas rien de cassé, etc., bon, bah, du coup j'ai pas eu d'ITT. Sauf que ben, j'ai été en arrêt pendant plusieurs mois suite à ça. Parce que le traumatisme a plus été psychologique.
Quand il est passé au tribunal, on a voulu y aller. On a voulu y aller. Et il m'a dit, non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ça va se passer en 5 minutes, ils vont m'humilier. C'est pas la peine que tu viennes. Non, 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 c'est pas la peine. Et en fin de compte, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Et le verdict vraiment a été. Il a dû être catastrophé, vraiment, du verdict, quoi. Je n'y attendais pas du tout.
Thank you.
Jugement correctionnel à l'audience publique du tribunal correctionnel de Brest le 22 juin 2017. Sur la culpabilité de M. Pascal Gosselin. M. Gosselin soutient qu'il a commis indirectement des violences pour se rembourser du préjudice qu'il subissait du fait du blocage de la carte. Ces affirmations sont contredites par la réalité même des faits.
Le procès, donc, très stressé, hein, mais bien entouré. Donc, il y avait ma compagne, des représentants de mes employeurs, de la structure, service juridique des employeurs, etc., plus mon avocat. Personne n'a témoigné en sa faveur, déjà. Et oui, il était seul. Avec son sac à dos, je crois. Le juge et la procureure ont dépeint le personnage, ce côté noir. Donc, personne ayant de l'emprise sur des gens, menaçant, violent, vivant dans la précarité sociale, isolé. Marginal, quoi. Dès l'instant où ils l'ont questionné vraiment sur qu'est-ce qui l'avait poussé à aller sur Wesson, etc., il n'a pas voulu répondre. Et vu son comportement, on a supposé qu'il avait fui.
Le certificat médical dressé le 16 février 2017 montre une perte de cheveux, une érosion fine linéaire, inflammatoire du dos de la main gauche d'un centimètre, un hématome bleuâtre de 4 cm de la cuisse gauche, un hématome bleuâtre de 2 cm de la face externe, du genou droit et une raideur globale des mouvements du rachis cervical. À l'audience, il va jusqu'à affirmer qu'elle n'aurait pas dû lui résister.
Alors je ne sais plus ce qui avait été demandé, mais en tous les cas, le juge, en gros, a empiré à chaque fois tout ce qui était demandé par la procureure. Lui, il trouvait que ce n'était pas suffisant, donc il a dit carrément, étant donné le personnage, mais il prendra. Je crois qu'elle avait dit des mois de sursis, mais et lui, il avait donné tout de suite un verdict de la prison ferme.
Les faits, très graves, sont donc caractérisés. Sur la peine. Les blessures sont importantes, notamment dans leur dimension psychologique. Le trouble à l'ordre public économique est important, alors qu'il s'agit de la seule agence bancaire de l'île d'Ouessant qui n'est pas dotée d'un distributeur automatique d'espèces. Madame a défendu avec un très grand courage son agence. Monsieur Pascal Gosselin vit seul. Il est en arrêt d'activité, atteint d'importants problèmes physiques après avoir été maçon. Il a une existence solitaire. Il n'a pas de famille sur Ouessant. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Une peine ferme de 18 mois de prison est adaptée. L'important trouble causé à la communauté illienne justifie que M. Gosselin soit interdit de séjour sur l'île d'Ouessant pendant 5 ans.
on était quand même un petit peu tous satisfaits de, du jugement. Sauf que, bah, après, il est retourné sur l'île tranquillement, il a fait appel. On a su 3 jours après le jugement que M. Gosselin faisait appel, qu'il gagnait du temps.
Il en voulait beaucoup à son avocat, qui devait être un avocat commis d'office, j'imagine. Et vraiment, il lui en voulait beaucoup, 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 beaucoup. Et forcément, en appel, je lui avais dit qu'on prendrait un autre avocat. Enfin,
Comment vous expliquez qu'il ait eu une peine aussi lourde ?
Je suppose qu'ils ont voulu faire un exemple. D'ailleurs, ils parlaient toujours de braquage et non pas de quoi. Il a pété les plombs, quoi, ce jour-là. Il ne réagissait plus, quoi. Il aurait dû faire un dossier pour le RSA, il aurait dû... Je sais pas, moi, il faisait plus rien. Il se laissait couler complètement. Mais comment faire?
Quand il avait installé sa tente, qui fixait au sol quand même, compte tenu des conditions météo qu'on peut avoir en Bretagne, et du vent, il laissait sa tente en permanence. Et sa tente est restée un petit moment, et à tel point qu'un jour j'ai demandé, mais comment ça se fait que sa tente reste là, et on le voit plus, etc.
C'est de la désespérance. Il a une apparence calme, mais tout de même à l'intérieur, on sentait effectivement une certaine tristesse. Hein. Alors, il était très grand. C'est un bel homme. Pour moi, c'est ce que j'appelle un bel homme, parce qu'aussi, il était très expressif. Il avait des mains magnifiques, sculptées.
J'ai le souvenir de quelqu'un qui faisait assez jeune, qui qui était grand, mince, pas moche du tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il devait avoir une quarantaine d'années quand il a fait les travaux. Ouais, il faisait plutôt... Il faisait jeune, quoi. Je l'ai connu au début, c'est parce qu'il est venu faire des travaux chez nous. Et c'est Pascal qui a fait toute la partie pierre, puis le revêtement intérieur aussi. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Et sinon, il habitait vraiment pas loin de chez nous. Il habitait à 200 mètres, quoi. Donc on avait conclu un marché avec lui, il faisait ça en notre absence, et puis nous on le payait à la fin des travaux. Quand les travaux ont été terminés, Pascal nous a contactés, on habitait encore à Paris, et nous a demandé de lui payer les travaux. Mon mari lui a dit qu'il voulait d'abord voir ce qu'il avait fait. Voilà. Donc là-dessus, Pascal, il nous avait piqué la tondeuse à gazon. Il l'avait prise en gage, en fait, pour être sûr d'être payé de ce qu'il avait fait, du travail qu'il avait fait. Et comme mon mari n'avait pas du tout aimé le procédé, tous deux s'étaient copieusement engueulés. Et Pascal, lui, il n'était pas forcément très, très fier de nous avoir piqué la tondeuse, si je me souviens bien. Donc il nous l'avait rendu et puis on l'a payé, voilà, et puis ça s'est terminé comme ça.
Ça ressemble à quoi son travail ?
Très chouette, très chouette, enfin, c'est joli, c'est harmonieux, on sent qu'il, enfin, voilà, il choisissait chaque caillou avec amour, voilà, c'est ce qu'on appelle de beaux murs, qui font plaisir quand on les regarde. Mais c'est vrai qu'il était plutôt impulsif, quoi. Enfin,
qu'il a choisi de partir en fanfare sur l'île en mettant le feu partout. Heureusement, il n'y a pas eu de victime à part lui. Donc, mais bon. Non, au moins comme ça, l'île d'Ouessant en est débarrassée.
De l'écomusée, hormis les quatre murs de pierre, un spectacle de désolation pour les Iliens et le gestionnaire du parc naturel régional d'Armorique, ainsi que le conseil départemental.
Dernier, un homme a volontairement provoqué 5 incendies sur l'île avant de se donner la mort. Parmi les bâtiments touchés...
Les incendies, oui, ça m'a surprise. Le suicide consécutif, ça m'a surprise, bien sûr. Et là, ça m'a vraiment fait de la peine, quoi. Parce que j'ai trouvé ça horrible de solitude. Enfin, c'est difficile d'imaginer une mort plus solitaire, en fait, que celle qu'il a choisie, quoi. Mais il était complètement acculé, quoi. Enfin, il avait plus rien. Enfin, je veux dire, financièrement, il était à zéro. Sur le plan social, bah, depuis ce qu'ils ont appelé un braquage de banque, il était brûlé à Ouessant. Il allait de toute façon être mis dehors de son logement. Il ne pouvait plus rester sur Ouessant puisqu'il avait été condamné à 5 ans d'interdiction de séjour, si je me rappelle bien. Il y avait 18 mois de prison qui étaient prévus. Il avait fait appel. Bon, je ne sais pas comment ça aurait tourné, mais c'était complètement disproportionné. C'était hallucinant, cette histoire. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression, après coup, quand j'ai reconstitué les choses, qu'on l'avait enfoncé, quoi. Enfin, qu'il était en train de se noyer, puis qu'il avait été complètement enfoncé. Enfin, je ne sais pas très bien qui y aurait résisté. Enfin, je pense qu'il y aurait peut-être des gens qui se seraient suicidés avant de mettre le feu. Enfin.
Qu'est-ce qui l'empêchait de prendre le bateau et d'arriver ici avec tous ces animaux? Vraiment, qu'est-ce qui l'en empêchait? Rien du tout. Il savait qu'ici, on l'attendait, il savait qu'il pouvait revenir vraiment sans problème. Non, rien à faire, rien à faire. Alors, vraiment, s'ouvrir les veines, c'est quelque chose, mais d'avoir tué ces animaux, je suis persuadée que c'est ce qui lui a fait le plus de mal. Je l'imagine. Alors là, vraiment, ça a dû être terrible, terrible.
Puis il faut être fort aussi pour vivre seul, je veux dire, même s'il y avait des gens quand même qui l'aimaient bien et tout, il faut être sacrément équilibré avant. Enfin, je pense que Pascal était juste à ses propres yeux, quoi. Enfin, quand je vois aussi ce qu'il aimait faire avec... c'est tout avec les éléments. C'est la pierre, c'est l'air, c'est la mer. C'est des choses absolues, des choses fiables, solides, permanentes. Et je pense que peut-être que la société pour lui était à l'inverse de ça.
J'ai retrouvé une phrase qu'il avait écrite pendant qu'il était en Angola. J'ai l'ambition de mourir riche, soit en pouvoir, soit en argent, soit en connaissance, soit en amour, bref, réussir quelque part. Qu'est-ce qu'il a fait de tout ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. De l'argent, il en a eu par moment, par son travail. Des amours, il en a eu quelques-uns, malheureusement, qui ne se sont pas bien finis. Réussir quelque part, je ne sais pas.
Il avait des chiens.
Ouais, il avait deux gros chiens. Ouais.
Vous vous en souvenez de ces...
Ah ouais, très bien. Très très bien. Bah, je m'en souviens parce qu'ils étaient très souvent du côté de nos poubelles à les renverser, à les fouiller. je m'en souviens parce qu'ils accompagnaient souvent Pascal et puis même ils allaient se balader seuls sur la route. Je revois aussi Pascal à vélo avec ses deux chiens qu'il suivait. Enfin, je les croisais souvent ces chiens, ça c'est clair. Hein. Voilà. Ça devait être juste avant notre départ. Hein. En vacances, donc avant tout ça, un de ces deux chiens, pour une fois, ne fouillait pas la poubelle, mais avait croqué un de nos poulets. Donc, ok, ça c'était la veille. Le lendemain, le même chien se ramène, toujours avec nos poules en liberté, donc cette fois-ci, on l'a viré, avant qu'il ne croque un autre poulet. Et donc, la dernière image que j'ai de Pascal, c'est à travers ce chien qui s'en allait sur la route et qui nous regardait en regardant en arrière. Et c'est vrai que ça m'a bouleversée parce qu'après, je me suis dit, mais en fait, ce chien, je sais même pas si Pascal avait de quoi le nourrir, quoi. Donc là aussi, on a l'impression de...
Fragment d'un homme de pierre. Avec Denise Ritchie, Stéphanie, Pauline Boutier, Françoise Héré-Lossieur, Jean-Pierre Ferré et Guillaume Bernier. Merci à Joël Kerhervé, Chantal Ferré, Jean Ritchie et Jean-Philippe Noblet. Coordination Aurélie Charme. Attaché de production Inès Duperron. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Frédéric Changenet. Une création sonore de Octave Broutard, réalisée par Céline Terce.
La semaine prochaine dans l'expérience, Chloé Delhomme, qui vient de recevoir le prix Médicis pour son roman Le cœur synthétique, nous offre une performance autour du personnage du livre. Vous écoutez France Culture, il sera bientôt 23h, vous entrez dans la salle des machines avec Mathias Sénard.